8 et 3, 8 et 2, 3, 8 et 8 et 3.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Je vais avoir l'honneur de vous faire écouter ce soir votre radio préférée.
Radio Campus 88.3.
Parlons philo. Parlons philo. Bonjour, bienvenue dans Parlons philo, une émission de philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3, animée et présentée par Laurence Lacroix, montage Viviane Behrer et Julien Weiss. Bonne écoute!
Bonjour à toutes et à toutes. Eh ben, aujourd'hui, dans Parlons philo, nous allons continuer la discussion que nous avions entreprise la semaine dernière avec Julien Weiss autour de son travail sur la photographie. Et aujourd'hui, dans Parlons philo, j'ai donc l'immense plaisir d'accueillir, pour poursuivre notre réflexion, Stéphane Doré. Donc Stéphane Doré, vous êtes aussi co-animateur à Radio Campus.
Eh oui.
Eh oui, voilà. Donc dans quelle émission?
Alors donc moi j'anime une émission maintenant, ça va faire 2 ans et demi, qui s'appelle L'Art. Ça y est, j'oublie. L'art qui parle de notre temps.
Voilà. L'art qui parle de notre temps, donc effectivement une réflexion autour de l'art contemporain.
Principalement, oui, mais j'ai justement évité de l'appeler contemporain pour montrer combien l'art, en fait, était... cet art-là, en tout cas, est très, très vaste et pas du tout consensuel, en fait, dans toutes ses formes, était un art qui était au présent et que les gens auraient intérêt à aller voir, à parler de cet art, parce qu'en fait, ça parle des problèmes de notre temps.
D'accord. Alors, pour cela, ben, vous êtes totalement légitime dans votre parole. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours, parce que des fois, on ne sait pas qui parle derrière le micro. Stéphane Doré, est-ce que vous pourriez présenter en quelques mots votre parcours?
Alors, moi, j'ai un parcours d'abord universitaire qui est très varié. J'ai fait du droit, j'ai fait de l'histoire, j'ai fait de l'histoire de l'art, j'ai fait de l'école du Louvre, etc. J'ai fait beaucoup de choses. Et ensuite, je suis entré dans le privé, dans une très grande galerie parisienne, la galerie Jean Fournier, où il y avait de très grands artistes. Et ensuite, je suis rentré, quand la galerie a fermé, je suis rentré au ministère et j'ai été conseiller aux arts plastiques en Auvergne, puis en région Centre. Donc, c'est pour ça que je connais bien la région Centre, où j'ai exercé pendant un certain temps. Puis ensuite, je suis allé au FNAC, en fait au CNAP exactement, hein, le Centre National des Arts Plastiques, et qui comprend donc le FNAC, et qui est donc ce lieu où il y a la plus grosse collection de France et peut-être une des plus importantes du monde, qui est donc un lieu où sont, on va dire, conservés et stockés une masse d'œuvres absolument considérable du 19e jusqu'à aujourd'hui, avec des commissions d'achat très régulières. Et moi, j'avais en charge le plus gros service, en fait, celui qui s'occupe à la fois de tous les mouvements. Ce qu'on appelle les mouvements, c'est les œuvres qui s'en vont, qui reviennent, sachant qu'on va s'occuper des œuvres des ministères. Donc, j'ai visité tous les ministères avec ça. Et c'est qu'on prête pour les expositions dans les musées, dans les lieux, dans les associations, dans les centres d'art, etc., etc. Et la deuxième partie, donc les mouvements, c'était assez lourd, hein, parce que ça concernait tous ces mouvements à la fois à l'intérieur des institutions et à l'intérieur des institutions culturelles, privées, publiques. Et puis, il y avait une partie très importante qui était les restaurations, où c'était un budget quand même qui était plus que conséquent pour réparer les œuvres, en fait, du fond. On les réparait au moment, bien entendu, où elles sortaient. Mmh. Voilà. Et puis après, après cette... magnifique expérience, j'ai postulé sur l'école de Bourges. Puis de l'école de Bourges, je suis parti à l'école d'Angers.
D'accord.
Voilà, et une longue, longue carrière dans les arts plastiques et une forme en fait de militantisme premier qui fait que après, oui, je me retrouve à la radio parce que je considère que beaucoup de gens voient l'art contemporain avec une certaine distance, pensant que c'est pas pour eux. Mais en fait, moi, je suis persuadé que c'est pour eux. Mais voilà, il y a toute une des a priori sur les aspects intellectuels, en fait, de l'art contemporain, sur le fait que c'est peu accessible ou peu compréhensible, que ça déroute beaucoup les gens dans, dans toutes les formes qui sont présentées. Et de ce côté-là, on dit, ben oui, non, non, c'est pas pour nous, c'est pour des élites, c'est pour des gens, ceci. En fait, non, pas du tout. Après, il y a aussi toutes d'autres forces qui critiquent cet art, qui parlent en effet de notre temps, et qui visent plutôt à revenir sur des formes traditionnelles, un peu closes. Et l'art contemporain est bien entendu le premier visé dans cette aventure. Et j'ai eu l'occasion souvent d'en faire... du moins d'en observer les effets.
Alors c'est vrai que c'est un peu peut-être les thématiques qu'on a abordées la semaine dernière avec Julien Weiss. On a tenté de penser autour de la reproductibilité de l'œuvre d'art en partant de l'œuvre de Walter Benjamin. Et c'est vrai que Julien discutait la thèse de Benjamin selon laquelle l'ère technologique qui est le nôtre et qui permet cette reproductibilité de l'œuvre d'art peut-être nous amenait à perdre l'œuvre d'art elle-même, dans le sens où, pour reprendre le concept qu'on a travaillé avec Julien Weiss et qui vient de l'œuvre de Benjamin, l'œuvre perdrait son aura. Voilà. Alors, du coup, Julien Weiss défendait l'idée selon laquelle, au contraire, la reproductibilité permettrait une plus large diffusion, une forme de vulgarisation, mais au sens noble du terme, de l'œuvre d'art, et la rendrait plus accessible. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement, Stéphane Doré ?
Chez Benjamin, il y a quand même cette idée de hic et de nung, qui est fondamentale, qui est cette idée que l'œuvre est d'un temps présent dans un temps présent, un lieu et un temps présent. Alors c'est vrai que la photographie, par exemple, ou le cinéma, déplace beaucoup de choses, en fait, puisque ce sont des temps projetés, donc des temps qui sont toujours médias. En fait, tous les arts industriels qui démarrent justement à cette période-là, hein, 1900, la grande révolution, on va dire, qui commence avec le cubisme, 1905, 1900, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît de l'art dit, qui est le début de cet art contemporain, né à ce moment-là.
Voilà, l'art contemporain débuterait en gros à cette période.
Il y a eu des débats là-dessus, d'historiens, non, c'est ceci, c'est cela, c'est l'art moderne, c'est pas l'art, enfin, qu'importe. Parce qu'après, ça devient très compliqué si on veut fixer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie révolution à cette période-là, qui est liée, bien entendu, à l'industrie en fait et les nouvelles technologies, quoi qu'on en dise, l'apparition de la photographie, l'enregistrement, on n'en parle pas assez, mais la radio c'est quelque chose de média. Hein, on parle aujourd'hui à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, et dont on ne sait pas en fait ce qu'ils pensent de nous.
Hein. Oui.
Donc on est déjà dans un rapport média par rapport à ces gens-là. Donc eux, ils vont nous entendre un certain jour, peut-être pas le jour où on a justement fait cette émission.
Oui, il y a
donc
les podcasts.
Déjà, le rapport entre le lieu et le temps est déjà déplacé. En fait, les arts industriels déplacent complètement cette notion-là. Or, pour Benjamin, il y a quand même cette idée de vision classique, en fait, d'une inscription dans un objet qui a été fabriqué à un moment X, pour des gens X, dans un temps X, et que quand l'objet est réussi, parce qu'il ne parle pas de tous les objets, hein, tous les objets n'ont pas d'aura, il n'y en a que ceux qui sont vraiment réussis, alors là, l'œuvre d'art apparaît. On retrouve cette idée, en fait, chez Lupert, dont on a des œuvres aujourd'hui, et qui lui défend encore cette idée-là, et d'ailleurs s'est fait sortir de l'Académie de Düsseldorf, dont il était le directeur, avec un peu d'amertume de son côté, parce qu'en fait, la période contemporaine, pourtant il a resté un bon moment, la période contemporaine ne correspondait plus en fait à sa vision qui est tout à fait légitime, qui est tout à fait construite et qui est tout à fait admissible en fait, et qui est fortement affirmée par lui, par Baselitz, par tous ces gens-là. Donc eux, on pourrait parler encore d'une forme d'aura par rapport aux peintures de Baselitz. Mais par contre, par rapport à un certain nombre d'artistes et surtout à partir du chant, ça devient, tous ceux qui sont pour du chant ou qui sont dans la mouvance du chant, les choses deviennent plus compliquées. C'est évident, même Duchamp, quand il fait son ready-made, déjà, il déplace la notion d'art, en fait. Qui fait l'art? Quel est cet objet industriel, justement, qu'il a choisi? C'est un objet industriel, il ne l'a pas fait, il n'a pas fabriqué de sa main. Il a mis simplement une petite signature.
Alors, on peut peut-être expliquer, en fait, le ready-made, ce que c'est. C'est-à-dire, effectivement, on prend un objet... Donc, on prend lequel ? Celui de... On prend le,
si
la
on
fontaine.
Fontaine Si on prend Fontaine, par exemple, c'est intéressant. Parce que d'abord, on prend un objet qui est fabriqué dans une industrie.
C'est un urinoir. Voilà.
Donc, il l'achète, il le prend, il le met tel quel. Avec juste quelques modifications. La première, c'est qu'il retourne. Voilà. Donc forcément, ça change complètement le sens qu'on en a. Et deux, c'est qu'il met, il signe Hermut, voilà, en dessous, la signature. Et à partir de là, en fait, ce qu'il cherche, lui, fondamentalement, c'est le scandale, puisqu'il va présenter ça à l'Armorie Show. Et il sait très bien que le comité de sélection de l'Armorie Show, qui est pour la peinture traditionnelle, on va dire, hein, qui n'est pas non plus fermé, hein, c'est des gens assez ouverts, mais c'est un peu comme le salon d'automne ici. Ça veut dire que c'est des gens qui s'intéressent à plein de choses, mais qui ont quand même quelques principes
académiques de
base, et qui, sur lesquels ils ne transigent que quand ils sont mis à la limite de ce qu'ils peuvent accepter. Et en fait, ces gens-là n'acceptent pas Fontaine, mais Duchamp l'avait anticipé. Hein.
Oui. Il était pas surpris.
Non seulement il était pas surpris, c'est ce qu'il voulait. Donc,
c'est ce qu'on appelle la provocation, la recherche du scandale.
C'est la recherche du scandale. Voilà. Mais ça fait partie, en fait, de... Les dadaïstes ont fait ça de la même façon. Hein. Donc c'était le fait de signifier, d'inscrire, en fait, l'objet, non pas dans un temps historique, mais un temps historique que lui contrôle. Pas le temps de son origine, c'est lui qui le contrôle. Et après, qu'est-ce qu'il a fait ? Après, il a fait faire avec son ami, il a fait photographier donc cet objet, qui a été ensuite, il y avait une galerie à New York qui finalement a présenté ses photographies. Ça a été publié dans un petit journal qui s'appelle Blind Art, et qui en fait c'était une publication, un fanzine tout à fait peu connu et peu distribué, et là ça a constitué la base, en fait,
de la révolution
et de l'inscription, en fait, de son œuvre dans l'histoire. Ensuite, l'œuvre a disparu, ça arrangeait bien ça aussi. C'est un système classique, c'est-à-dire plus ça disparaît, mieux c'est. On n'a pas d'original donc de Fontaine.
On a juste la photographie.
On a la photographie, c'est tout ce qu'on a. Donc l'original a été perdu, puisque lui, ça lui était égal, l'original, fondamentalement. Et donc, du coup, il a fait refaire après, avec Schwartz, etc., un galeriste italien, des différentes versions, il y en a une dizaine dans le monde, qui ont bien sûr ont regagné les musées comme étant justement le point central de la construction de l'art moderne, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une construction tout à fait, je dirais, pensée, anticipée par Duchamp pour questionner l'art et renverser, en fait, la valeur de l'art.
Alors, on pourrait dire peut-être que jusqu'au 19e, on est sur une esthétique qu'on pourrait qualifier de kantienne, pour simplifier les choses. C'est-à-dire, l'art est pensé du point de vue du sujet. C'est le sujet qui va définir, de par ses ressentis, la notion de beau, ce qui fait qu'un objet devient œuvre d'art ou est œuvre d'art. Alors que là, est-ce qu'on peut dire qu'on passe non plus du côté du sujet, mais du côté de l'objet, et que l'œuvre devient devient le propre de l'objet, qui va du coup porter son sens en lui-même ? Est-ce qu'il y a une autonomie de l'œuvre qui se crée à ce moment-là, une autonomie par rapport au sujet ou pas ?
Ah, c'est ce qui se passe, c'est la distanciation médiatique qui se passe entre l'objet et l'individu, ou l'objet et l'artiste et l'art, hein, puisqu'il dit que c'est les regardeurs qui font l'art. La notion d'objet, elle est très forte aussi. Hein, dans la beauté, elle est toujours liée à un objet. Hein, un oui. objet artistique.
Mais qui la crée dans le sujet.
Etc. Qui la crée dans le sujet, le sujet étant, là aussi, c'est les notions de beauté, en fait, qui construisent ce qu'est une belle œuvre, mais ça ne tient pas qu'à l'objet, ça tient à sa composition, ça tient à la capacité, en fait, de donner, de construire une composition qui porte le sujet. Mais la composition, elle joue énormément, parce qu'un sujet, il y en avait des tonnes et des tonnes. Mais l'enjeu, c'était vraiment de trouver la composition la plus juste pour l'artiste, hein, j'entends,
oui.
pour dire ce qu'il pensait du sujet.
Mm-hmm.
D'où tous les dessins préparatoires, par exemple du Bélisaire de David, où on voit que progressivement, ce général donc, qui devient aveugle, etc., qui est retrouvé ensuite par un de ses soldats, etc., donc, et qui est une preuve de personnage de grandeur d'âme, on va dire, toute l'histoire de Bélisaire. Et David cherche en fait sa composition. Et il y a une multitude de dessins où le général est représenté dans différents états et aussi à différents endroits. Puisque le tableau final est plutôt latéral, enfin il est plutôt latéral, etc., pour justement magnifier la rencontre, etc. Donc tout ça on analyse, hein, les historiens maintenant analysent ça de façon précise, mais on voit bien que c'est un ensemble en fait, la beauté. Et puis elle a un peu varié aussi entre les canons classiques ensuite le néoclassicisme et le romantisme, ça se bat quand même beaucoup, hein. Ingres se bat beaucoup avec Delacroix, c'est des vraies batailles, on a l'impression aujourd'hui pour nous que c'est quasiment le même type d'art, mais en fait pas du tout, c'est des vraies batailles avec des vraies oppositions. Il ne faut jamais oublier même que Klimt, par exemple, quand il fait les grandes décorations pour l'université de Vienne, on lui refuse ses tableaux. Mmh. Et quand on regarde sincèrement les quatre, il y avait quatre panneaux, hein, quand on regarde les quatre panneaux aujourd'hui, celui de Klimt peut paraître un peu plus moderne, mais il n'y a pas tellement de différence. Mmh. Hein. Donc il faut... Ça, c'est pour moi, c'est ça, en fait, la notion de beauté. C'est cette espèce de composition, sujet, et comment on crée la sensation du propos qu'on veut donner à travers le sujet. Mmh. Ça a toujours été vrai, de toute façon, en art. Hein. L'art n'est jamais que beauté en soi. Hein. Ça a toujours été un message, ça a apporté toujours des éléments forts, en fait, de sens par rapport à la société ou autre. Hein.
Alors, en quoi on pourrait dire que l'ère de la reproductibilité crée une nouvelle forme d'art ? Qu'est-ce qui est radicalement nouveau, alors ?
Ce qui est radicalement nouveau, mais ça, Benjamin le dit très clairement, hein, c'est le rapport entre celui qui fait et celui qui reçoit.
Mm.
Et il le dit clairement, et il parle du cinéma, il dit l'acteur au cinéma... c'est un personnage qui n'est plus dans le cinéma, comme au théâtre. Au théâtre, il est dans un temps présent, c'est-à-dire il est sur la scène du théâtre, il joue, et du coup, il est en présentiel avec le public qui est là.
Mm.
Et il joue au moment T, dans ce théâtre T. Voilà, c'est précis, on sait où il est. Et le rapport qui se passe entre l'acteur... le comédien et le public, va s'adapter aussi aux réactions du public, on a des tas d'exemples comme ça, d'un acteur par exemple qui perd son texte et en fait qui n'a jamais tant fait rire le public tellement il s'en sort avec des pirouettes d'acteur.
Oui,
mais
oui,
ça,
oui.
ça veut dire que c'est un rapport direct de temps et de lieu. Avec le cinéma, c'est pas vrai. Un acteur fait 10 prises pour en avoir une, il sait même pas ce que ça donnera et le film se fait au montage.
Mmh.
Il y a donc, à travers l'appareillage, on va dire l'appareillage de tous les appareils qui tournent autour du cinéma, l'appareillage est donc média de la relation entre l'acteur et le réalisateur. Et en fait, celui qui fait le film, c'est le réalisateur, ce n'est pas l'acteur.
C'est ce que dit François Ozon, là, actuellement, dans une de ses interviews, oui. Benjamin dit aussi que, du coup, l'acteur devient idole, l'acteur de cinéma, pas de théâtre. Mmh. Il devient une véritable idole, ce qu'on peut totalement constater, je ne sais pas, avec une icône comme Tom Cruise, à l'heure d'aujourd'hui, où effectivement, il y a des véritables groupies. En même temps, c'était peut-être aussi vrai de Sarah Bernhardt, par exemple. Elle aussi suscitait des mouvements de passion comme cela.
Oui, mais je pense pas de même nature, parce qu'en fait, là aussi, où il ajoute un élément qui est fondamental, à mon avis, c'est l'idée de la masse.
Oui.
Et en fait, on apparaît d'une société de masse, c'est-à-dire que le cinéma, ça devient un art populaire, contrairement à ce qu'on pense, c'est vraiment populaire, et ça se développe, et finalement, les gens qui voient un film sont 10 fois plus nombreux que telle personne qui a vu tel acteur à tel endroit, tel jour.
Alors, du coup, quel est le sens d'une œuvre d'art ? Est-ce que le sens d'une œuvre d'art, c'est de plaire ? Parce qu'après tout, quand on parle de masse, on a quand même cette idée d'industrie culturelle, c'est-à-dire voilà, des œuvres formatées, faites pour le divertissement, pour le commerce. Il faut que ce soit des œuvres qui soient rentables. Et plus elles sont rentables, mieux c'est. On a le sentiment. Donc, du coup, elles sont aussi là pour flatter ce que la masse ou le public attend, je ne sais pas. Ou est-ce que l'œuvre a pour vocation de véhiculer un message, voire de transformer la société ?
Alors, l'œuvre, en tout cas, c'est qu'elle est claire, c'est qu'une œuvre réussie, c'est une œuvre qui porte sens. Voilà. Alors, et c'est vrai avant, et c'est vrai après.
Ça ne change pas,
parce qu'en fait, si on regarde, par exemple, les oppositions entre Fragonard et Boucher, on voit bien qu'ils disent deux choses très différentes et qu'ils ont deux visions très différentes du monde dans lequel ils sont. Voilà, donc, et puis aujourd'hui, c'est la même chose. On est dans un rapport où les artistes essayent de donner du sens, de dire un certain nombre de choses très simples pour dire que le monde change, que l'on vit dans d'autres conditions, etc. Après, si on revient sur l'aspect de la masse, on se rend bien compte que ça change le rapport qu'on a. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que c'est la masse qui fait, en fait, la reconnaissance. Et d'ailleurs, ça, Benjamin le dit très, très clairement aussi dans son livre. Il dit bien que quand il parle de starification, en effet, c'est parce qu'en fait, à un moment, il y a une telle engouement pour un acteur. Mais cet engouement, c'est la masse qu'il fait. Après, il dit aussi que le rapport entre on va dire le spectateur du cinéma ou le regardeur du film est un rapport d'expert. Et ça, c'est vraiment très important. Parce qu'en fait, il dit clairement que ce n'est plus extérieur. C'est lui qui devient expert, en fait, du film qui vient, de la performance de l'acteur qui vient de voir. Et il est expert, mais comme il le dit très bien, dans la distraction. C'est-à-dire naturellement, parce qu'en fait, on lui propose quelque chose qui est censé le divertir et qui le divertit, qui ne l'impacte pas directement, si ce n'est bien entendu par toute l'histoire qu'on lui raconte. Mais du coup, il se retrouve comme juge par rapport à ça. Il est pris à partie, en fait, dans le film. Et il est pris à partie en lui-même et pour lui-même quasiment, hein, puisqu'il peut voir le film, penser le film, et puis, bon, il peut en parler à d'autres, mais aussi il peut l'avoir dans la tête, n'en parler que de 3 ans, ou je sais pas moi, quelques mois plus tard avec une autre personne qui l'a vu. Ou, voilà, je veux dire, c'est bien un rapport personnel, en tout cas.
Alors, du coup, ça me pose aussi une autre question. Peut-être le rapport entre... on parlait de reproductibilité, j'ai envie de dire de reproduction, d'imitation, à la manière platonicienne, et engagement. L'œuvre contemporaine, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle veut reproduire le monde au sens simplement qu'on a parlé de vision, c'est-à-dire le représenter et nous le donner à voir tel qu'il est, ou est-ce que cette révolution qui a pu avoir lieu amène les artistes dans un réel langage artistique d'engagement ? Comment faut-il appréhender une œuvre contemporaine ?
Eh bien, le problème, c'est que déjà, il faut penser qu'elle est plurielle. Ça, c'est le premier problème. C'est chose qu'on ne dit pas assez. En fait, les artistes s'opposent entre eux parce qu'ils ne pensent pas de la même chose de la société. Et ils font des œuvres qui n'ont absolument pas les mêmes contenus de sens. Chose que des gens ne voient pas forcément, mais qui est pourtant assez claire. Si on regarde, par exemple, un Jeff Koons ou un Damien Hirst, ce sont des gens qui sont néolibéraux, profondément, et qui sont finalement des icônes de cette société néolibérale. C'est pour ça aussi qu'ils gagnent autant d'argent. Mais d'autres ne le sont pas, par exemple, des gens comme Pierre Huy, qui est un autre artiste français, enfin Jeff Koons est américain, mais Pierre Huy, qui est un artiste français, lui, en fait, il crée des œuvres qui sont plutôt des formes de réflexion sur comment, en fait, comment la société, nous, dans quel réel la société nous produit, en fait. C'est sa question. Donc, forcément, c'est plus la même chose. Il est forcément assez critique vis-à-vis du monde, on va dire, économique actuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser que tous les arts vont fonctionner comme tout un chacun dans l'art néolibéral. Mmh. Il y a des artistes qui critiquent ce système-là. Puis d'autres qui ont des critiques très fortes, d'autres moins fortes, d'autres qui sont des critiques très extrémistes, etc., d'autres moins, etc. Mais si on regarde le travail de différents artistes, il est bien évident qu'ils ne sont pas neutres. Et ils s'opposent les uns aux autres.
Alors il y a André Rouillet qui a écrit donc un essai qu'il a intitulé « La photo numérique ». Une force néolibérale, donc dès le titre, hein, on sait où on est. Alors, je me permets juste du coup de le citer un peu. Lorsqu'il parle des photos numériques, donc ce sont toutes celles qu'on peut prendre notamment avec nos téléphones portables et qu'on va retrouver ensuite sur le net aussi. Je pense que cet ajout a son importance. En tout cas, il nous dit assez clairement les choses. Je le cite. Les photos numériques instillent subrepticement et continuellement dans la subjectivité de chacun la rationalité néolibérale. Instantanéité, accélération, fluidité, circulation, horizontalité, partage et ubiquité. Cette dissémination du modèle du marché, même s'il n'est pas toujours question d'argent, fait exploser les anciennes limites entre l'ici et l'ailleurs, la nation et le monde, le privé et le public. C'est l'ère de la mondialisation.
C'est ce que dit Walter Benjamin.
Oui.
Et il l'annonce. Il l'annonce d'une façon radicale, mais c'est exactement ça. Oui, en effet, mais tout l'art contemporain n'est pas comme ça. Un certain art contemporain comme ça. Après, la société, elle est quand même sous domination de ce système-là. La critique qu'il porte, c'est la même que Benjamin. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut... C'est une société à laquelle on peut s'interroger quand même sur ses bienfaits et ses... et là où elle nous conduit.
Bon, oui.
Voilà. Après, mais ça prouve bien, en fait, que, pour revenir même sur la notion d'engagement, on voit bien comment... Chez les artistes, l'engagement est compliqué, non pas parce qu'il est compliqué, parce qu'ils sont tous engagés fondamentalement dans leur travail. Mais quand je dis ça, c'est pas une litote, c'est parce qu'en fait, ils sont réellement engagés par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent dire. Mais ils se détachent en fait de tout système politique, ou pas tous, mais une grande partie des artistes s'en détachent parce qu'en fait, ils savent très bien que le système de représentation, on en est arrivé, est déjà broyé par ce système-là.
En fait,
que leur rapport à l'engagement serait broyé lui aussi, en fait. Donc, ils préfèrent faire des œuvres. Mais il y a des œuvres qui sont éminemment politiques. Hein. Des œuvres, par exemple, de documentaires, il y en a beaucoup. Et quand on les regarde, c'est clair que c'est des gens qui critiquent tel aspect. Enfin, sur l'immigration, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Et ils font des documentaires, des formes de documentaires artistiques, mais des documentaires qui sont extrêmement violents parfois. Donc, mais qui ne vont pas se raccorder à un système idéologique comme on a connu précédemment, quoi.
Alors, je me suis aussi demandé si on ne pouvait pas entendre ces analyses au sens où... Pour pouvoir vivre de son art à l'heure d'aujourd'hui, on doit nécessairement intégrer le système, et le système est néolibéral. Donc, à la limite, même quelqu'un qui critique le système néolibéral par son art ne peut le faire qu'en s'inscrivant dans un système néolibéral qui lui permette de survivre. Et du coup, je me dis, voilà, on parle de plus en plus des NFT, Donc, ce qui peut paraître inconnu à un certain nombre de nos auditeurs, parce qu'en fait, on est en plein dedans, j'ai l'impression. Donc, les NFT, ce sont des certificats numériques qui aujourd'hui, peuvent valoir véritablement une fortune. Alors, c'est là où on retrouve, il me semble, le système néolibéral, quand on dit que les NFT permet justement de construire d'immenses fortunes sur le système virtuel. C'est-à-dire, en fait, la NFT peut aussi nous amener une idée qui, pour moi, est là aussi radicalement contemporaine au sens d'aujourd'hui, à savoir que l'œuvre peut être conçue comme étant virtuelle. Donc elle n'est plus simplement, j'ai envie de dire, physique, le tableau qu'on peut voir. Elle est plus simplement reproductible, la photographie d'un tableau ou un film sur film. Elle est virtuelle au sens où, en fait, elle va faire partie d'un marché virtuel, de l'économie virtuelle, de ce système virtuel qu'est Internet. Alors, je pourrais peut-être clarifier un peu les choses. Donc, que sont les NFT ? Les NFT, donc en anglais, ce sont les non-fungible tokens. En français, si on veut le traduire, ça serait des jetons non interchangeables. Voilà. Donc, qui sont basés donc, sur des contrats intelligents de crypto-monnaies. Et on peut obtenir donc un certificat qui est infalsifiable d'un achat. Donc en fait, c'est une sorte de titre de propriété numérique qui atteste d'un caractère unique d'un bien qu'on a acheté donc sur le net. Ce bien, je vais faire simple. Ça peut être par exemple une image numérique. Donc il y a l'image numérique. Et il y a le NFT. Le NFT, c'est le certificat d'authenticité de cette image numérique que j'ai achetée. Et si cette image numérique plaît au monde entier, j'ai envie de dire, chacun d'entre nous pouvons télécharger cette image sur notre smartphone, en fond d'écran par exemple.
Oui, mais en fait, tu n'en es pas propriétaire. Ce que tu fais.
Mais voilà, j'en suis pas propriétaire. Ce qui veut dire que la personne qui est à l'origine de cette image a acheté le NFT... Elle, sur le marché, voit du coup son NFT, coté extrêmement cher, puisque cette image est fortement, par exemple, téléchargée.
En fait, les NFT, déjà, d'abord, ça revient déjà sur Benjamin et ça revient sur l'originalité et l'unique.
Oui.
Déjà, c'est un premier point. On pourra voir que c'est un... Après, la notion de...
Si j'ai bien compris, ce qui est unique, c'est le NFT, c'est-à-dire le certificat.
C'est le certificat de propriété.
De propriété.
De l'objet ou du territoire ou du logiciel. Ou voilà.
Voilà. Objet qui, du coup, est virtuel.
Ah bah, il est sur le net. Mais il n'est pas virtuel dans la mesure où si tu fais une image numérique qui est dans un ordinateur, il est virtuel si on veut parce qu'il est en
il
code.
Est numérique.
Il est numérique.
Voilà,
en code,
c'est ça.
Mais il est reproductible à l'envi.
Mais par contre, voilà, il est reproductible à l'envi. Donc, multiplicité.
Doute multiplicité, mais avec originalité.
Mais
et
avec...
en même temps, l'originalité que défend Benjamin dans ce cas-là, il y a bien une origine, c'est-à-dire celui qui a fait le dessin, et il y a bien un propriétaire.
Donc,
il y a bien la possibilité d'avoir dans un seul lieu, c'est-à-dire sur la blockchain, l'endroit où se trouve l'œuvre, et on peut savoir quand elle a été vendue, puisque le système des NFT qui répond à un système de blockchain permet de savoir exactement tout l'historique des transactions. Il y a bien unité de temps et de lieu, mais c'est des lieux virtuels.
Voilà. Alors, je vais juste te donner un exemple. L'artiste américain Beeple, qui en fait se nomme Mac Winkelmann, a vendu une photo numérique nommée Everyday, The First 5000 Days, pour plus de 69 millions de dollars par la maison d'enchères Christie's à New York. Cette photo numérique en NFT est pourtant consultable et téléchargeable par tous les internautes qui le souhaitent. Ce n'est pas le cas d'un tableau de maître conservé précieusement à l'abri des regards, dans le monde physique, c'est-à-dire dans un musée au Louvre, par exemple.
C'est juste... on pourrait dire que c'est presque la même chose, puisque aujourd'hui, le nombre de reproductions qu'il y a dans les magazines...
De la Joconde.
De la Joconde, ou même de n'importe quel tableau. Aujourd'hui, on peut aller sur le net, on cherche un artiste, on tape « images », et on a toutes les images, quasiment toute sa production. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cet système de reproductivité qui est lié au numérique, là, c'est à l'appareillage numérique, hein, ça c'est sûr, en fait, il n'a pas besoin d'être virtuel, il l'est déjà. Même une pièce originale, elle l'est déjà.
Alors,
virtualisée, si on veut, puisque de toute façon, elle est accessible. Et on sait que, et moi-même j'en ai eu l'expérience, qu'il y a des œuvres que je n'ai pas vues ou que je n'ai vues, que je vois, par exemple, dans les musées un jour ou l'autre, parce que, voilà, je n'ai pas eu l'occasion de la voir, je vais voir telle exposition, et je tombe sur l'œuvre, et je me dis, mais je la voyais vachement plus grande. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a connaissance d'un certain nombre d'œuvres uniquement au travers des médias virtualisés.
Alors, du coup, la différence pourrait être... Bon, parce que là, on parle de créateurs qui ne sont plus... Mais d'un créateur actuel...
Ben, ça pourrait être la même chose.
Hein. Ouais, sauf que le NFT lui permet de vendre son œuvre.
Ben oui, mais même... c'est la même chose pour... c'est un autre circuit, si on veut.
Voilà.
C'est un autre circuit. Oui. Mais fondamentalement, quand James Coon faisait ses ballons, là, ou ses chiens avec des ballons, aujourd'hui, ça envahit la planète. Hein. Il y en a des reproductions par milliers dans tous les trucs d'un peu de déco, tout ça. Hein. Voilà. Donc,
mais
on ne peut pas dire que c'est exactement le même système néolibéral. On retombe sur les mêmes choses.
Oui.
C'est-à-dire que la question, en fait, du NFT... D'abord, c'est pas lié à l'art, premier point. Il y en a partout.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce que c'est vrai que là, on parle de crypto-art.
On parle de crypto-art parce que ça appartient bien au monde des crypto-art. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Donc, il faut revenir sur la notion de blockchain, qui est quand même importante. En fait, une blockchain, c'est si une personne fait une transaction avec une autre, elle l'enregistre. Cet enregistrement... est rassemblé dans, on va dire, un petit wagon, pour être simple. Ce petit wagon va transiter par la plateforme, donc va se raccorder à un autre petit wagon. Il y en a des dizaines et des dizaines de petits wagons. Et puis, il va être ensuite, la transaction, une fois que ça sera raccordé à la chaîne, va aller sur la personne qui était le destinataire. D'accord ? Ensuite, il y en aura en permanence, puisque c'est une plateforme qui reçoit les transactions.
Donc, transaction entre acheteur et vendeur.
Par exemple, si on veut.
Oui.
Et en fait, il les met dans un petit wagon. Quand le petit wagon est rempli, il bloque.
D'accord.
Il l'attache à la chaîne. Et du coup, un autre wagon va venir devant, et ainsi de suite. Et tous les wagons sont bloqués. Donc, on ne peut pas, dans une blockchain, on ne peut pas oublier. Et tous les ordinateurs qui ont accès par la plateforme à la blockchain... peuvent aller chercher, c'est pour ça qu'on dit miner, peuvent aller chercher n'importe quelle information puisque tout est lisible depuis l'origine.
D'accord. Donc c'est une immense salle d'archives, quoi.
Si on veut. C'est les plateformes, en fait, qui gèrent ces salles d'archives. Mais c'est ça, le Bitcoin, en fait. C'est toutes les transactions sont transparentes et individualisées. Et donc, du coup, la transaction qui fait que j'achète un Bitcoin... Alors, le Bitcoin, c'est fongible.
C'est
fongible, alors que là, on parle d'objets non fongibles. Hein, mais le Bitcoin, par exemple, je vais acheter un Bitcoin... Je vais le vendre à quelqu'un, il l'achète, ça passe par la chaîne que je viens de dire. Ensuite, il va le revendre, ça va à un autre, ça va repasser par le bidule. Et on a tout le temps, toute l'historique en fait, de ce bitcoin-là, en fait, globalement. Alors là, c'est des bitcoins qui sont interchangeables, on est bien d'accord. Ils ont un bitcoin égale un bitcoin. Dans les non-fongibles, comme dans les NFT, c'est justement ça, non-fongible token, en fait, c'est bloqué. C'est-à-dire que c'est un objet unique. Donc, on peut le racheter en tant qu'objet si le propriétaire l'a vend. Parce que le propriétaire peut revendre son objet non fongible, son NFT. Mais par contre, le NFT qu'il vend n'est pas égal à un autre NFT. Voilà. Alors, ce système de protection, en fait, on va dire de scellement, en fait, des transactions, est utilisé par plein de gens. Il y en a qui s'en servaient là sur des productions de chaussures pour qu'on ait, chaque chaussure ait son propre token. Les grands magasins sur les origines des aliments, mais surtout, c'est le domaine des gens qui sont les gamers. parce qu'on peut acheter, on peut acheter des, je sais pas moi, des, puisqu'il y a beaucoup de personnages dans les jeux de, dans les jeux numériques, qui fait qu'on peut racheter, je sais pas, telle coiffe ou telle arme et l'avoir que soi.
D'accord.
Alors après, elle peut prendre une valeur assez dingue et on peut l'utiliser dans tel jeu et on joue, mais on l'a acheté. On peut dans certains jeux.
Et donc il n'y en a pas deux.
Il n'y en a pas deux. Pas de cette arme-là et pas avec ces fonctions-là. Mmh. Après, on peut la vendre et elle peut, alors aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais elle peut aller dans d'autres jeux. Enfin, on peut acheter aussi des terrains du jeu.
Mmh.
On peut isoler une partie du jeu en disant ça c'est mon territoire.
D'accord.
Voilà, et on l'a virtuellement, hein. Tout ça est virtuel, on est bien d'accord. Et puis on peut aussi acheter des logiciels comme ça.
Mm-hmm.
Donc les
NFT, les en NFT fait, on en trouve partout.
On en trouve partout parce que c'est lié, c'est des objets non fongibles, donc uniques, qu'on ne peut pas échanger comme étant égal, c'est ça, mais ça peut être n'importe quoi, qui passe par une plateforme de blockchain.
Mm-hmm.
Voilà. Après, il y en a plusieurs.
Il y a plusieurs plateformes de blockchain, c'est ça.
Il y en a plein, etc. Bon, moi, je ne suis pas assez savant pour en parler, mais je pense que les gamers en savent beaucoup plus que nous, en fait, sur les NFT. Mais ça, forcément, à un moment, il y a des artistes qui travaillent avec le numérique, qui donc, du coup, c'était assez logique qu'ils, travaillant sur des objets numériques, ils les passent en NFT, parce qu'ils étaient habitués.
Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir de l'art ?
Je pense pas, moi. Je pense que l'art a toujours eu différentes formes. C'est toujours régénéré de différentes façons, là où on ne l'attendait pas. Aujourd'hui, on a de l'art, on a des peintures qui valent fort cher, qui valent très très cher. On a des gens qui font des objets, on a des installations, on a des vidéos, on a des photographies, et puis on a des objets virtuels. Pour moi, c'est une catégorie parmi tant d'autres de ce que l'on peut faire avec l'art. Parce que l'art, c'est toujours quand même un acte. Là, par exemple, pour... la pièce que je connais, moi, de Bipol, là, c'est vraiment une faute, enfin, un dessin, on va dire, sur Trump avec des sortes d'injures sur son ventre, etc., etc. Bon, on ne peut pas dire que ça soit complètement dénué de sens. Après, on aime ou on n'aime pas, mais il y a à lire, il y a une sorte d'attitude quand même. Il est tout nu, allongé, avec des mots dessus. Donc voilà, à part ça, on a l'impression que c'est presque un peu comme un dessin de livre d'enfant. Voilà. C'est trop joli, c'est trop mignon. Mais bon, quand même. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Et puis l'art, la question de ce qu'est art, c'est extrêmement complexe. Parce qu'à partir du moment où on a cassé les catégories d'art, et ça, c'est bon, c'est le début encore de la période révolutionnaire. Aujourd'hui, on peut faire de l'art avec tout. C'est ça, le vrai problème. Mais c'est vrai. Et c'est sain, c'est une libération, en fait, pour les artistes. Et en même temps, c'est un énorme challenge. Quand on était, par exemple, je ne sais pas, à la période du 17e ou 18e, il y avait des courants, mais on devait tous apprendre à dessiner, on devait tous savoir composer. Et après, ceux qui arrivaient avec le plus d'intelligence par rapport à la situation, à ce qu'ils ressentaient, eux, arrivaient à créer des œuvres qui subsumaient ça, en fait, fondamentalement. Donc ce rapport-là, aujourd'hui, c'est des gens qui le font avec n'importe quoi, mais ils peuvent faire des œuvres fantastiques avec n'importe quoi. Et ils peuvent mélanger les différents éléments. Je vous prenais une exemple d'une œuvre de Fern Memories, qui est une œuvre absolument fantastique pour moi. C'est une œuvre qui part du film Un après-midi de chien, donc Peckinpah. Et puis, on connaît ce film, hein, c'est des gens qui attaquent une banque et qui sont des losers homosexuels, et puis ça se tourne mal pour eux, etc. Et en fait, ce qu'a fait Pierre Huyghe, c'est qu'il a mis les affiches du film, hein, il a mis ensuite la réalité de l'événement tel qu'il s'est passé, et il a fait rejouer le même acteur, c'est-à-dire celui qui a fait cette prise de banque, qui est sorti de prison, il l'a fait rejouer dans un décor qui est exactement le même, mais on va dire un peu minimaliste, mais exactement le même espace, exactement là où étaient les bureaux, et il l'a fait rejouer exactement la scène. Quel est le plus réel ? Les gens ne connaissent pas l'histoire réelle de ces homosexuels qui s'aimaient, et c'est pour faire un, pour payer une opération pour son ami homosexuel qu'il a fait cette attaque de banque. Les gens n'ont pas su ce qui se passait. Le film lui-même donne une autre version des faits, même histoire d'amour, mais pas homosexuel, enfin, etc. etc. Et puis la dernière chose montre réellement comment lui a revécu le où est la vérité, où est le réel. En fait, cette pièce, elle dénonce ce qui est notre monde, c'est-à-dire où on se situe entre fictivité et réel, et quel réel on parle. Avant, on avait moins de problèmes. Mais avec le monde média, c'est-à-dire le monde de l'appareillage, on pourrait reprendre ce que dit Walter Benjamin, en effet, ça devient extrêmement compliqué, quoi.
Oui, donc...
Et ça, c'est une œuvre pour moi. Et c'est fait avec... et c'est pas fait n'importe comment. C'est une œuvre qui a coûté de l'argent. Il a fallu faire un film. Enfin, et puis c'est une œuvre qui a demandé énormément de temps à Pierre Huyck pour la constituer. Et en même temps, cette œuvre, elle existe pour moi. Elle démontre en fait une partie de ce qu'est notre réalité.
Oui, donc on pourrait peut-être terminer sur cette idée, à savoir le rapport œuvre réelle, œuvre fiction. Pour ça, peut-être qu'on pourrait faire référence à Gilles Deleuze, il me semble, qui a travaillé sur l'idée justement que pour comprendre l'art à l'heure d'aujourd'hui, il faut saisir tout le travail que les artistes font autour de la représentation. Et comment, justement, comment on pourrait opposer médias et art et montrer comment les artistes luttent contre, en fait, la représentation du réel qui nous est donnée par les médias et tentent de déconstruire cette image qui nous paraît comme allant de soi et qui est quand même celle véhiculée par le média. Donc, j'ai envie de dire l'œuvre comme médium, luttant contre les médias. Est-ce qu'on pourrait voir l'art d'aujourd'hui, pour pas utiliser le terme contemporain, l'art d'aujourd'hui, un peu sur ce mode deleuzien?
Alors, d'une part, c'est quand même une prise de position, un positionnement politique de sa part. Donc, il est déjà contre le système d'emblée. Toute sa réflexion se situe contre. Donc, il y a énormément d'artistes, et même numériques, qui sont contre le système numérique. Et il y en a beaucoup qui ont des approches extrêmement critique de cet aspect-là. Par exemple, il y a un artiste qui s'appelle Klinkerman qui travaille sur les réseaux de neurones et qui, en fait, donc il regroupe un certain nombre d'images avec ces réseaux de neurones et il introduit un virus informatique pour enlever toutes les couleurs, par exemple, d'une image, etc. Et du coup, l'image devient quasiment noire, elle devient fantomatique. C'est une vraie critique, en fait, de ce que peut attendre un système numérique. Il le critique dans ce sens-là. Après, il y a plein de gens qui le critiquent à différents niveaux. Par exemple, il y a un autre artiste qui s'appelle Kelly Walker, qui lui a fait une image, une image qui représente un désastre, hein, s'appelle Disaster, et New Disaster. Il y en a plusieurs, hein, mais et celle dont je vais parler, c'est une image où on voit un pont qui s'est effondré avec plein de gens qui sont morts, avec plein de véhicules qui sont tombés, et puis il a mis lui une couleur le long de la rivière qui prend l'endroit où se situe la scène dramatique, qui est orangé, cerné de jaune, donc extrêmement séduisant, ça fait une superbe image. Là-dessus, il a appelé capitalisme résiste capitalisme, etc., etc. Il a mis justement deux phrases pour montrer où il était, et en même temps, son image est extrêmement séductrice. Et après, il a fait un disque où il a mis cette image, et il a dit « cette image est à tout le monde, à celui qui porte le disque ». Alors, il faut porter le disque, mais on peut copier le disque, on peut altérer l'image, et tout ce qui sortira de tout ça, ça sera toujours une œuvre signée Kay Walker. Tout ça pour dire que c'est une vraie critique du système, justement, contraire à ce qu'on pourrait voir de certains NFT, par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que y a beaucoup de résistance dans le numérique aussi. Chez nombreux artistes, il y a des peintres aussi. Il y a beaucoup d'artistes qui font de la résistance et du coup, qui s'inscriraient parfaitement dans le système de représenter.
Oui.
Mais qui n'est pas quand même celui du monde ancien, puisqu'on sait que... Bon, c'est toujours utile de dire que la représentation, on va dire, de la Renaissance jusqu'à la fin du 19e, on va dire en gros, le monde de la représentation suppose qu'on représente toujours quand même ou la nature ou, le, ou les bâtiments, etc. Ce rapport-là, en fait, de la mimésis, elle est super importante dans cette période-là.
Oui, ce qu'on pourrait nommer l'imitation. L'imitation, voilà. La reproduction, on reproduit.
Oui, mais la reproduction, c'est presque moderne déjà.
Mais voilà.
C'est presque moderne de parler de reproduction. Parce que, en fait, mais il y a des artistes, par exemple, qui travaillent là-dessus, sur la duplication, la reproduction, etc. Et qui en arrivent à faire des œuvres qui ne sont presque plus rien, mais qui mettent en œuvre comment, en repliquant à l'infini une œuvre,
on perd. On perd du matériau, on perd.
Mais il y en a plein. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur ces sujets-là.
Avec l'idée, peut-être, du coup, que si l'artiste ne faisait que reproduire au sens de la duplication, effectivement, l'œuvre ne serait rien. C'est raison pour laquelle, lorsque l'artiste produit quelque chose, nécessairement, il y amène quelque chose, j'ai envie de dire, de sa patte, qui fait que l'œuvre vit, quoi.
Mais que ce soit en numérique ou qu'on soit peintre ou sculpteur, de toute façon, on met en place des processus, quels qu'ils soient, que ce soit des processus qui soient liés sur... uniquement à des problèmes de pratique, d'expérimentation, comme un peintre, par exemple, travailler sur un sujet, etc., etc., que ceux qui font les numériques, qui de toute façon contrôlent les processus qu'ils mettent en œuvre. Il y a un moment, ils font des choix, à un moment, ils mettent un virus, à un moment, etc. Et c'est vrai, de l'art contemporain, le processus est au cœur, en fait, des mécaniques de fabrication de l'œuvre, très, très souvent. On va chez Ruteau, par exemple, qui fait des définitions méthodes, où il définit ce qu'est son tableau, et donc après, on peut le reproduire à l'infini, si on achète la définition méthode.
Voilà.
Ouais. Et donc, c'est-à-dire, ce système de processus, il existe à tous les niveaux, et ça... c'est bien entendu, c'est quand même assez industriel.
Ouais.
Ça fait partie du monde industriel. En fait, tout est un changement de monde à partir du moment où on est rentré dans l'ère industrielle. Mais là, on en sort. Donc, on va en sortir, puisque maintenant, ça représente presque plus rien. Et puis, de toute façon, il va y avoir des robots partout. Donc, donc, on va vers une autre société.
Donc, une nouvelle forme d'art.
Je pense, oui.
D'accord.
Ouais. Mais pas forcément, pas forcément en rejetant en fait, des médiums anciens.
En dépassant au sens hegelien du terme.
Oui,
là,
c'est ça,
fait bon.
C'est ça.
Dépasser en gardant.
Dépasser, subsumer les choses, voilà. Mais en gardant le médium.
En regardant le médium.
Et d'ailleurs, en numérique, il y a énormément de gens qui travaillent à la peinture. Et qui font des œuvres justement troublantes pour justement mettre en évidence le rapport qu'on peut avoir aux images qu'on ne veut pas voir. Il y a un article qui s'appelle Danet, qui a reproduit donc une photo qui est une photo de neige de pin dans la forêt, et il l'a reproduit de façon pointilliste, c'est-à-dire point par point. Et quand la lenteur pour fabriquer ça, et quand on regarde la peinture, on est absolument troublé par l'image, par la peinture elle-même, parce qu'elle nous montre une image presque stationnaire, en fait, alors que cette image... elle représente une image plus ou moins mouvante, un peu troublée par la lumière rétro-éclairée. Et donc, du coup, on a un autre rapport à cette peinture. Et elle est faite, en fait, pour qu'on arrête, en fait, ce fameux retard par rapport à qu'amène la peinture dans le regard, la contemplation, des choses comme ça.
Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Stéphane Doré, de nous avoir éclairé sur ces nouvelles pratiques, sur la manière par laquelle, effectivement, l'art s'est redéfini à partir de la fin du 19e siècle, en gros, avec la révolution industrielle. Et puis, ça veut dire aussi que nous avons, nous, du travail à faire, puisqu'il va falloir penser comment l'art se repense, se redéfinit, se représente. À nous avec la période de changement, de transition dans laquelle visiblement nous sommes en train de rentrer.
Oui, je pense, mais il faut quand même être très optimiste parce qu'en fait, le temps d'une société n'est pas le temps humain.
Oui.
Donc la société bouge, elle bouge plutôt vite, mais elle met quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que nous. Et nous, on peut mourir. Donc il faut être clair, on a un temps de vie quand même assez court. Donc il ne faut pas attendre des changements gigantesques tous les 5 ans ou les 6 ans ou penser qu'un nouveau gouvernement va amener le meilleur. meilleur. Non.
Mais c'est pas mal non plus, parce que déjà, on a affaire à beaucoup de changements, donc je trouve que c'est bien d'arriver à les digérer, déjà prendre le temps de saisir ce qui a eu lieu.
Oui, mais il y a une entropie de tout ça.
Voilà. Merci beaucoup, Stéphane Doré, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Au revoir. Et à très bientôt donc pour une nouvelle émission de Parlons Philo. Parlons Philo, une émission de philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3. Animée et présentée par Laurence Lacroix, montage Viviane Behrer et Julien Weiss.